franceinter.fr.
La science pour tous, c'est le cri de nombreux chercheurs français qui souhaitent que leurs travaux soient accessibles au plus grand nombre. Et dans une lettre parue dans le journal Le Monde lundi, des scientifiques appellent donc les sénateurs à voter l'article 18 du projet de loi pour une république numérique. Serge Habitboul, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chercheur à l'INRIA et ancien membre du Conseil national du numérique. Et puis également avec nous en ligne, Marin Dacause, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre pour l'édition électronique ouverte, Open Edition, qui se trouve à Marseille. Serge Habitboul, pourquoi avoir signé cette lettre qui réunit auprès de vous de très nombreuses signatures prestigieuses, des prix Nobel, des médaillés Fields? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement alors aux sénateurs et puis également au public?
Ce que vous voulez dire, c'est très simple, hein, c'est que on est tous passionnés de science, on fait de la science. Cette science, elle est financée le plus souvent par des fonds publics. Et ce qu'on voulait dire, c'est que cette science doit être disponible à tout le monde, qu'il n'est pas acceptable que la recherche scientifique soit freinée parce que un chercheur, parce qu'il est pas au bon endroit, parce qu'il est dans un petit labo, qu'il est dans un pays qui a pas beaucoup de sous, n'a pas accès à l'information et ne peut pas faire sa recherche avec toutes les informations dont l'humanité dispose.
Comment ça fonctionne aujourd'hui justement la publication scientifique pour qu'on comprenne bien la façon dont on travaille et dont sont publiées justement les recherches aujourd'hui?
Alors aujourd'hui c'est un petit peu une période de transition, donc les gens font de la recherche, ils écrivent des articles et ils les publient. Alors dans certains domaines, par exemple en informatique en France, c'est devenu standard de les publier en accès ouvert, mais il y a encore beaucoup de domaines où c'est pas le cas, et donc après vous avez des chercheurs qui ont fait le travail, qui ont écrit leurs résultats, et puis d'autres chercheurs qui ont besoin de ces résultats pour avancer et qui ont accès, s'ils sont dans un laboratoire qui a payé ce qu'il fallait pour avoir accès aux articles, ou qui n'y ont pas accès, ou c'est compliqué, il faut trouver des moyens un peu détournés pour avoir la formation. Et c'est ça qui est pas vraiment acceptable aujourd'hui.
Alors justement, Serge Habitboul, il y a aussi cette idée que les scientifiques puissent accéder rapidement aux données de leurs collègues.
Alors, il y a évidemment d'accéder rapidement aux données des collègues, et puis aussi, il y a tout ce qui s'appelle text and data mining, qui veut dire essayer de récupérer beaucoup d'informations pour pouvoir faire tourner des algorithmes dessus, et puis découvrir de l'information dans toutes ces publications. Et donc ça, c'est aussi un aspect important de la loi qui devrait permettre de faire justement des recherches pour nous aider, enfin, c'est-à-dire d'utiliser des algorithmes pour nous aider à faire de la recherche. Alors évidemment, la recherche du scientifique, seul ou dans son équipe classique, elle est toujours là, mais maintenant on peut aussi se faire aider d'algorithmes.
Alors pourquoi c'est important justement que des scientifiques puissent accéder rapidement aux travaux de leurs collègues? Vous donnez l'exemple du virus Ebola par exemple dans la lettre.
C'est que, si vous voulez, il y a tellement de publications en ce moment, et ces publications, elles sont dans énormément de domaines, et la recherche est pas forcément ciblée sur un domaine particulier. Alors, dans votre domaine, en général, vous avez dans votre laboratoire accès à ce qui se publie dans ce domaine-là. Mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens d'avoir accès à ce qui se publie dans tous les domaines, et il faut faire des fois du cross-référencement entre différentes des résultats qui apparaissent dans plein de domaines différents. Donc moi, typiquement, je ne connais rien au virus d'Ebola, mais il y a des domaines, des fois, sur lesquels je peux tomber. Par exemple, je peux faire des travaux qui sont près de la sociologie quand je fais des travaux sur de l'analyse de données sur Twitter, par exemple. Mmh. Et j'ai pas forcément accès aux articles qui sont dans ces domaines-là.
Oui. En tout cas, l'exemple du virus Ebola était intéressant parce que ça a nécessité des travaux de recherche dans un nombre considérable de disciplines qui pouvaient justement réunir ensemble, répondre plus vite à l'urgence. Hein. C'était un peu cette idée-là.
Exactement, et c'est typiquement le cas, là c'est dans Ebola, on est dans l'urgence, et il ne faut pas qu'on mette des années à pouvoir récupérer les informations qui sont publiées par d'autres, et les travaux qui sont faits par d'autres.
Marin Dacause, ce qui concerne directement les chercheurs, ce sont les articles 17 et 18 hein, de ce projet de loi. En quoi consiste-t-il exactement?
C'est simplement l'article 17 porte sur l'accès ouvert, c'est-à-dire l'autorisation pour le chercheur de déposer dans ce qu'on appelle une archive ouverte ses articles 6 à 12 mois après leur publication. Mmh. Donc ça permet de donner un accès universel à cette production scientifique. Et puis l'autre article, le 18, porte sur le text data mining, la fouille de texte et de données, qui doit permettre aux chercheurs, sans qu'il ait à collecter de coûteuses autorisation d'explorer des corpus de données, qu'elles soient des corpus d'articles scientifiques ou d'autres types de données, sur lesquels ils pourraient faire des études massives et produire de nouvelles connaissances. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en l'état du droit, il faut collecter des autorisations. C'est long, ça peut être coûteux. Si on doit collecter sur 1000 sources de données, 1000 autorisations, vous comprenez qu'avant de commencer à faire sa recherche, on peut attendre plusieurs années avant de pouvoir démarrer. Donc là, il faudrait qu'on puisse autoriser les chercheurs à exploiter tous les corpus qui sont disponibles sur le web massivement, de plein droit.
Alors Marin Dacos, Serge Abitboul le disait tout à l'heure, il existe déjà des plateformes d'accès à ces données hein, pour les chercheurs.
Alors pour les données, c'est assez peu développé, mais en revanche pour les articles et les revues, effectivement il existe un grand nombre de plateformes dans le monde. Il y en a, les plus connues sont Cielo au Brésil, Redalic au Mexique et Open Edition que je dirige en France. Ce sont des plateformes en open access ou en accès ouvert. Celle que je représente est une plateforme de sciences humaines et sociales. Et ce que je voudrais rajouter à ce qu'a dit Serge Abitboul, auquel je souscris entièrement, c'est que non seulement le résultat de la recherche scientifique auquel on cherche à accéder sans barrière intéresse les collègues, et donc effectivement un biologiste peut soudain avoir besoin de données d'épidémiologie, ou un sociologue peut soudain avoir besoin de données de statistiques ou de mathématiques, et donc là les barrières des abonnements sont problématiques. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, et ce qui a intéressé les gens qui ont signé cette tribune, c'est aussi que la science désormais peut s'adresser à tous et elle peut intéresser tout le monde. Et donc on est surpris, nous, à Open Edition, on publie des revues en sciences humaines et sociales, d'histoire, d'économie, de sociologie, d'autres disciplines qui sont considérées comme scientifiques, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire des revues sérieuses, méticuleuses, déployant un argumentaire structuré. Eh bien, on constate qu'on a malgré tout 64 millions de visites au cours de l'année 2015, c'est-à-dire 30 millions de visiteurs uniques, pour des contenus très scientifiques. Et donc, statistiquement, on est certain que une partie importante de notre lectorat n'est pas issue du milieu de l'enseignement supérieur de la recherche.
Donc c'est bien une chance pour tous hein, dont on parle avec vous. Serge Abitboul, les éditeurs privés sont favorables à ces changements d'accessibilité des données ?
Non, évidemment non. Mais si vous voulez, ils ont une espèce de rente sur les résultats scientifiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une énorme distinction entre ces résultats scientifiques qui sont issus de résultats de la recherche, qui ont déjà été financés par le public le plus souvent, et puis d'autres choses qui peuvent éditer à côté. Donc essayer de mélanger un peu tout ça, mélanger ça avec des aspects de copyright sur des romans, par exemple, ça a strictement rien à voir. Il y a un autre aspect qui est où la loi est peut-être un peu en deçà, où on aimerait bien qu'elle aille plus loin, c'est aussi sur l'accès aux données. Marin en a parlé un petit peu, c'est pas que les publications sous forme d'articles, il y a énormément de données qui sont générées dans les laboratoires, et ces données-là peuvent être utiles dans d'autres laboratoires, et il faudrait vraiment qu'on avance sur ce côté de la mise en commun de toutes ces données de recherche qui peuvent être utilisées par la collectivité et faire avancer la recherche beaucoup plus vite.
Serge Abitboul, quand le Sénat doit-il examiner le texte maintenant ?
Je ne sais pas exactement, Marin, c'est peut-être.
Oui, Marin.
Quelques semaines, mais pour le moment, ce n'est pas défini, mais c'est dans quelques semaines.
C'est ça, au printemps, a priori, hein, ça va arriver. Hein. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Texte à lire donc en ligne sur le site du Monde, dans les pages Science et Techno, donc signé par de très nombreux chercheurs et parmi les plus prestigieux. Merci beaucoup, Serge Abitboul et Marin Dacos, de nous avoir donné des détails sur cet article. Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le plus ancien des fossiles terrestres jamais observés s'appelle Tortotubus. Il a 440 millions d'années. Ce champignon, proche de ses descendants actuels, aurait colonisé la Terre bien avant les animaux. À cette période, la vie était essentiellement sous-marine. Seules quelques mousses et lichens s'échouaient sur les rivages. L'étude du fossile nous suggère donc que Tortotubus avait préparé le terrain pour que la faune et la flore puissent se développer sur Terre. En tout cas, ces fragments de mycélium sont en photo sur le site de la Tête au Carré. La comète Chury a le même âge que notre système solaire. Et pour le savoir, la sonde Rosetta, munie de son spectromètre Rosina, a analysé l'abondance d'argon, de monoxyde de carbone et de diazote dans sa glace. Les chercheurs ont ensuite regardé combien d'hydrates de gaz la structure pouvait piéger. Et à la surface de Chury, la glace est cristalline avec des molécules d'eau qui sont arrangées de manière ordonnée. C'est la preuve que Chury s'est formée entre moins 228 et moins 223 degrés Celsius en même temps que notre système solaire, il y a 4,6 milliards d'années et non auparavant dans le milieu interstellaire. Et puis des jumeaux sont nés de pères différents au Vietnam. Il s'agit d'un cas extrêmement rare de superfécondation hétéroparentale. Le principe est le même que pour une grossesse de jumeaux hétérozygotes, sauf que deux pères sont les géniteurs. Comme la durée de vie d'un spermatozoïde n'est que de 5 jours, il faut donc que la mère des jumeaux ait eu des rapports sexuels avec les deux hommes dans la même semaine, ce qui a donc été le cas. Les tests de paternité n'étant pas fréquents, il est possible que ces superfécondations hétéroparentales soient plus fréquentes que l'on ne pense.